This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
On your marks.
Salut à toutes et à tous, bienvenue dans l'heure olympique, notre podcast quotidien, votre bonbon quotidien. Je suis Maxime Dupuis et en l'absence d'Adrien Yo, je porte la lourde charge de présenter cette émission. J'espère m'en sortir à moitié aussi bien que lui. Ce sera déjà un immense exploit qui, je l'espère, me vaudra une médaille en chocolat de préférence. De médailles, il sera question dans cette édition avec l'argent du fleuret par équipe, une défaite face à l'implacable Russie, c'est notre événement du jour. On parlera aussi de médailles en chocolat. Évidemment, les quatrièmes places en JO autour de Maxime Grousset, on se posera la question simple qui fâche, peut-on, doit-on se satisfaire d'une quatrième place? On parlera aussi de tennis avec Arnaud Di Pasquale, notre dernier Français bronzé en simple olympique. Et enfin, du roi Teddy, ce sera l'événement de vendredi, l'heure du triplé et de l'heure. En attendant, je suis avec Laurent Vergne et Raphaël Brosse pour cette heure olympique. Comment allez-vous, messieurs?
Excellemment. Très bien.
Plutôt bien, Maxime.
Eh bien, écoute, c'est parfait, ça tombe bien parce qu'il reste encore beaucoup de jours avant la fin de ces Jeux qui battent leur plein aujourd'hui. Heureusement, je veux dire.
Mais oui, heureusement.
Heureusement, on s'éclate. On est ravis.
On dormira plus tard.
On dormira plus tard, voilà, on dormira quand on sera mort. L'événement du jour, on démarre par ça, c'est évidemment le fleuret par équipe. Une première médaille depuis 1984 pour cette arme. Malheureusement, une défaite et une finale à sens unique face aux Russes, 45-34. Raphaël, est-ce qu'on peut avoir des regrets sur ce qu'on a vu ce soir à Tokyo?
Pas vraiment. Alors, pour remettre les choses dans leur contexte, la France, si elle voulait conquérir l'or olympique, avait deux énormes montagnes à gravir. L'Italie, d'une part, et la Russie ensuite. Ce sont les deux grands favoris dans cette catégorie-là. Enfin, c'était les deux meilleures équipes, en tout cas sur le papier. L'Italie a été écartée avec un scénario invraisemblable qu'on évoquera sans doute un peu plus tard et qui restera l'un des temps forts, à n'en pas douter, pour la délégation française à Tokyo. Et face à la Russie, face au comité olympique russe, c'était beaucoup plus compliqué. Il n'y a pas eu le relais déclic qui aurait pu permettre d'inverser la tendance. Il y a eu un écart qui a été creusé lors des deux premiers relais et ensuite... Ça a toujours été compliqué. Les Russes ont réussi à maintenir les Françaises à distance. Et voilà, donc finalement, il n'y a pas tant de regrets que ça, puisque l'écart est quand même significatif, surtout si on regarde le score à l'arrivée. Maintenant, pendant longtemps, finalement, ces Russes n'étaient pas si loin que ça. Mais comme je le disais, voilà, il a manqué cette étincelle qu'il y a eu contre l'Italie et qui nous a permis de renverser la vapeur, mais qu'on n'a pas retrouvé contre les Russes, malheureusement. Malgré tout, c'est une belle médaille d'argent, je pense.
Lors de la troisième manche, le troisième relais, il y a cette blessure de la Russe Martianova qui se tord la cheville, une entorse ou une fêlure. Le score est de 7-11. Un long temps mort pour la remettre d'aplomb. Elle est strappée. On se dit peut-être que, alors c'est injuste pour les Russes, mais il y a peut-être un retournement de situation à venir à ce moment-là.
Mais finalement, pas de place, Maxime.
Moi, je prends tout ce qui va venir. Tout ce que je peux, hein. Un tien vaut mieux que deux, tu l'auras. Et finalement, non, c'était vraiment un sens unique. Est-ce que c'est difficile, justement, de tirer face à une adversaire qui est blessée? On sait que dans certains sports, notamment le tennis, on ne sait pas toujours comment s'adapter et finalement, ça n'a rien changé alors qu'on pouvait penser que... Et des fois, c'est peut-être une chape supplémentaire sur les épaules de l'adversaire qui est en face.
Ouais, je pense que dans n'importe quel sport, c'est compliqué de se retrouver face à une donnée comme ça, imprévue, avec un adversaire ou une adversaire qui est un petit peu diminuée. Maintenant, pour moi, honnêtement, sur cette finale, c'est vraiment un épiphénomène. Et les Russes étaient vraiment largement favorites. Il ne faut pas oublier que deux des trois tireuses russes étaient sur le podium de l'individuel. Elles avaient fini deuxième et troisième. C'est un collectif qui est très solide. Alors effectivement... le maillon présumé le plus faible, c'est en plus blessé, mais c'est vraiment une faiblesse quand même relative. Franchement, je pense que effectivement, enchaîner des victoires contre l'Italie et la Russie, ça aurait été, enfin le Comité olympique russe, pardon, ça aurait été un double exploit énorme. Ouais, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de regrets à avoir. La meilleure équipe a gagné en finale. On peut peut-être être un petit peu déçu du scénario parce qu'on n'a pas eu le temps vraiment d'y croire et de vibrer un peu. Isauratibus a mené 2-1, je crois, dans le tout premier relais. Elle a pris 4 touches d'affilée. Ça a fait 5-2. Et d'ailleurs, les fins de relais ont fait très, très mal aux Françaises sur les 3-4 premiers. À chaque fois, elles étaient plutôt bien en début de relais et à chaque fois, elles ont concédé des touches sur la fin. Ce qui fait que la dynamique n'a jamais pu s'enclencher. Donc, il restera quand même pour moi déjà cette demi-finale qui est un des plus beaux matchs par équipe, des plus intenses et des plus riches en émotions qu'on ait pu voir au-delà du fleuret féminin hein, pour une équipe de France aux Jeux depuis ces 20 dernières années aux Jeux. C'est un des plus beaux matchs moi, que j'ai vu.
Je rappelle qu'elles sont menées 20 touches à 9.
Ouais, 20 touches à 9 et jusqu'à 12 touches d'écart. Je crois,
24-12,
voilà. Donc, c'était vraiment formidable. Et puis, il vaut mieux être passé à côté de la finale que de la demi, hein, parce que derrière, un match pour la médaille de bronze, ça peut être très, très compliqué. Et puis, moi, je suis vraiment très, très content pour ces filles. Et pour elles et pour toutes les tireuses qui ont représenté l'équipe de France de fleuret féminin depuis 10, 15, 20 ans, parce que ces filles, elles ont beaucoup entendu qu'elles étaient le maillon faible de l'escrime française. Elles ont été beaucoup critiquées. C'était la seule arme qui ne ramenait pas de médaille dans les grands championnats en très, très longtemps. Et je pense que ça a été dur à vivre, y compris pour la nouvelle génération. Donc, c'est bien. C'est vraiment très bien. On rappelle, c'est la première médaille donc depuis 84 par équipe. Et je pense que c'est vraiment la récompense pour ces filles-là, mais vraiment pour tout le travail qui a été fait depuis une bonne décennie maintenant. Il y a eu une montée en puissance et c'est une vraie récompense. Et puis, il y a Astrid Guyard qui est rentrée dans cette finale. Donc, elle a sa médaille, elle aussi. Alors, elle a mis qu'une touche. Elle a perdu 5-1 sur son relais. Donc, je ne sais pas exactement les tenants et les aboutissants de la décision. À ce moment-là, il y avait déjà 10 touches d'écart. Il y avait 30-20 quand Astrid Guyard est rentrée à la place d'Anita Blaz. Donc, moi, je suis content pour Astrid Guyard qui a porté cette équipe de France, même si aujourd'hui, elle est plutôt en fin de carrière. Elle a porté ce groupe pendant des années. Elle n'avait pas eu cette médaille qu'elle aurait pu avoir au jeu. Elle l'a aujourd'hui et donc je suis vraiment moi très très heureux. C'est une médaille qui me fait vraiment très plaisir.
Bah, c'est une illustration de l'esprit olympique. Si ça a été fait pour ça de la faire rentrer, voilà, c'est une chouette image.
Oui, et puis on va rappeler qu'il y a 5 ans, elles n'avaient pas pu s'illustrer puisque le fleuret féminin par équipe n'était pas présent au programme des Jeux de Rio. Donc cette année-là, je pense qu'elles auraient eu vraiment de réelles chances de médaille également. Et en 2012, elles avaient perdu en petite finale contre la Corée du Sud. Ce qui avait été le point d'orgue du fiasco de l'escrime français lors de ces Jeux olympiques. Et on va aussi rappeler qu'elles avaient été un petit peu décevantes en individuel également il y a quelques jours, notamment donc, Pauline Ranvier et Isauratibus, dont on pouvait espérer peut-être pas impossible, peut-être un podium, clairement.
Mais c'est vrai, Raphaël, pardon, je te coupe, mais moi, je trouve ça presque mieux que cette médaille intervienne en équipe, parce que vraiment… Oui, il y a des leaders, mais c'est vraiment pour moi la récompense de tout un groupe.
Et donc,
le groupe, c'est évidemment les athlètes et le staff derrière. Mais vraiment, une médaille en indiv aurait été formidable. Mais ça aurait été formidable surtout pour la tireuse qui aurait eu cette médaille.
Ah, on est d'accord.
Là, elles l'ont toutes et moi, ça me fait encore plus plaisir qu'une médaille individuelle.
Messieurs, on a fait le tour.
Ouais, juste préciser qu'il reste 3 épreuves.
L'épée demain, messieurs, c'est
voilà.
Ça
ouais, puisque épée homme demain, et puis il restera ensuite le sabre dame et le fleuret homme. Et c'est 3 chances de médaille, clairement. Alors attention, hein, dans les épreuves par équipe, il suffit de peu de choses. Demandez aux Italiennes aujourd'hui pour passer à côté. Donc ce sera évident pour personne, mais pour l'instant, l'escrime française a 3 médailles, une de chaque métal, et il reste vraiment 3 vraie chance de médaille. Alors, le bilan, il est bon pour l'instant, il est satisfaisant si ça devait s'arrêter là. Il peut devenir très bon voire excellent, avec quand même la petite réserve que rappelait Raphaël, c'est que cette année, toutes les armes sont au programme à nouveau, et en indiv, et par équipe, et chez les hommes, et chez les femmes. Donc il y avait quand même beaucoup plus de possibilités de médailles. Alors il y a des épreuves par équipe où la France n'était pas qualifiée, mais c'est parce qu'elle ne s'était pas qualifiée, pas parce que ce n'était pas au programme. Donc il faudra juste relativiser ça quand on comparera par exemple au bilan de Rio. Londres, on va le laisser de côté, mais c'est et tant mieux d'ailleurs. C'est très bien que l'escrime soit à nouveau représenté dans toutes ses armes et dans toutes les disciplines.
Et évidemment, la suite de l'escrime, comme tout le reste des Jeux Olympiques, c'est à suivre en direct, en intégralité, sur Eurosport et l'application Eurosport. On passe à la deuxième partie de l'émission, toujours avec Laurent Vergne et Raphaël Bros. La question qui fâche, peut-on, doit-on se satisfaire d'une quatrième place aux Jeux Olympiques ? On a été inspiré pour cette question par Maxime Grousset, qui cette nuit a réalisé un petit exploit, il faut le dire, en terminant quatrième du 100 mètres nage libre. Il a eu ces phrases après la remise des médailles à laquelle il ne participait pas. « Quand j'ai regardé le tableau et que j'ai vu que j'étais quatrième, j'étais vraiment content parce qu'à la base, je suis huitième chrono. Un petit peu frustré aussi d'être au pied du podium, mais pour aller chercher la troisième place, il fallait que j'élève encore mon niveau d'un cran. » Donc, on sent, Laurent et Raphaël, que Maxime Grousset est une chouille déçue, mais quand même assez heureux de terminer quatrième. Est-ce qu'on peut se satisfaire de ça ?
Bon, je vais commencer, hein, une fois que Laurent n'a pas tout de suite envie de répondre.
Alors, le cas est complexe avec Maxime Grousset, de toute manière.
C'est vrai. Moi, je trouve qu'il y a deux cas de figure à distinguer. On va prendre la question globalement. Moi, je pense que ça reste très difficile à accepter, mais je distingue les sports en concours ou en course des sports de confrontation. En concours ou en course, comme c'est le cas pour Maxime Grousset, même si on termine quatrième, on est forcément déçu, on peut se raccrocher à des éléments positifs, à un super chrono, ou au fait d'avoir battu à la régulière d'autres très, très bons nageurs, en l'occurrence, c'est le cas. Mais dans des sports en confrontation, donc, comme l'escrime, comme le judo, ou même les sports collectifs, bah, cette médaille, elle se joue, cette troisième place, elle se joue sur un match sec, et le fait d'avoir perdu, le fait qu'il y ait cette défaite, ça accentue, selon moi, la déception. Et dans ce deuxième cas de figure, je ne vois pas comment est-ce qu'on peut être satisfait d'une quatrième place. Or, dans le cas de Maxime Grousset, donc, comme j'expliquais, il y a tous ces éléments-là qui entrent en compte et le fait, bien sûr, qu'il soit encore relativement jeune, qu'il soit un peu l'invité surprise, qu'il ait un petit peu peut-être surperformé, je ne sais pas comment il se sent par rapport à ça. Mais bon, voilà, donc c'est moi la petite nuance que j'apporte par rapport à ça, mais je ne suis pas convaincu qu'on puisse être complètement satisfait d'une quatrième place. Hein.
Je pense qu'il n'est pas complètement satisfait de finir quatrième, mais on parle de performance et d'attente d'un athlète d'abord par rapport à lui-même. Un athlète, il se bat contre d'autres athlètes, mais aussi contre lui-même d'une certaine manière. Et notamment, Raphaël a raison, dans des sports qui sont liés à la performance, où chacun fait sa performance de son côté d'une certaine manière. Chacun est dans son couloir, évidemment qu'il y a un rapport de force, mais le but, c'est que chacun aille le plus vite possible. Et puis, tout est une affaire de contexte. Si vous arrivez aux Jeux Olympiques en étant 10, 15 ou 20e mondial dans la hiérarchie avant les Jeux et que vous finissez 4e ou 5e, je comprends qu'on puisse être sinon satisfait de finir 4e, en tout cas satisfait de sa performance. Je pense que c'est ça le qui importe dans le cas de Maxime Grousset. Par exemple, Kevin Mayer, alors on va me dire Kevin Mayer, c'est du décathlon, c'est le raisonnement que je viens d'avoir, mais poussé à l'extrême. C'est vraiment en décathlon, on se bat, j'ai envie de dire, presque que contre soi et pas du tout contre les autres. À la fin, chacun fait les comptes et on voit le classement, mais c'est d'abord un combat contre soi-même. Et Kevin Mayer a dit à propos du décathlon de Tokyo, évidemment que j'ai très envie d'avoir la médaille d'or, mais je viens d'abord pour faire un grand décathlon. Si je fais un grand décathlon et qu'à l'arrivée, il y a un, deux ou trois gars devant moi, ben, j'accepterai la sentence. Je pense que c'est un petit peu pareil pour Maxime Grousset, avec en plus un facteur plus fort encore pour lui, c'est que contrairement à Kevin Mayer qui est attendu pour une médaille, voire pour le titre olympique, Maxime Grousset, il ne venait pas pour être champion olympique du 100 mètres nage libre. Il ne venait même pas à la base pour être sur le podium. Donc déjà, le fait d'être entré en finale était pour lui une vraie satisfaction, une vraie réussite. Et en plus, il ne faut pas oublier qu'il avait le 8e temps d'engagement des finalistes. Donc, même si la densité était importante et qu'il y avait assez peu d'écart finalement entre une troisième et une et le entre le troisième temps et le 8e temps des demi-finales, je pense quand même que finir quatrième, C'est pas rien pour lui. Et puis, c'est ses premiers jeux. Tout est une affaire de contexte. On en parlait tout à l'heure hors antenne avec Raphaël. Clarisse Agbegnénou, quand elle fait deuxième à Rio en 2016, intrinsèquement, c'est un meilleur résultat que la quatrième place de Maxime Grousset. Et pourtant, je pense qu'elle, non seulement elle n'aurait pas été contente de finir quatrième ou cinquième en judo, mais elle était effondrée de terminer deuxième. Donc, tout est une affaire de contexte par rapport au potentiel d'un athlète, par rapport à la carrière d'un athlète, à l'âge d'un athlète, à son expérience et à son potentiel. Donc, par rapport à ça, on peut être très déçu de finir deuxième ou content, non pas de finir quatrième, mais d'avoir été chercher une quatrième place.
Et alors, je vais me faire l'avocat du diable, messieurs, là. Est-ce que vous ne pensez pas aussi que les Jeux, par essence, c'est tous les 4 ans, voire même tous les 5 ans ou tous les 3 ans dans l'état actuel des choses? Le train ne repasse pas toujours deux fois. Moi, j'ai souvenir de Stéphane Diagana en 92, qui fait une course formidable sur le 400 haies, qui, dans la course du record du monde, l'ancien record du monde de Kevin Young, et on se dit, c'est bon, 96, c'est pour lui. Et bien finalement, alors il a fait une formidable carrière, record d'Europe, champion du monde, mais il n'a jamais attrapé ça. Donc, avec le recul, et c'est peut-être le temps qu'il le dira, est-ce qu'il n'y a pas quand même ce sentiment de dire, bah, je suis quand même passé à quelque chose d'énorme?
Alors, pour moi, ça, c'est autre chose. Tu as raison, mais le fait de... Ce qu'il ne faut pas dire aujourd'hui, c'est que sa quatrième place, elle est une promesse ou encore moins une garantie d'être un jour sur un podium olympique, que ce soit dans 3 ans à Paris ou peut-être dans 7 ans à Los Angeles. Mais Diagana, c'est un petit peu la même chose. Quand il fait quatrième à Barcelone de cette finale du 400 haies qui est mythique, est-ce qu'il peut faire mieux? Non. Il pulvérise son record personnel. C'est à l'époque la course la plus rapide de tous les temps sur le 400 haies. C'est d'ailleurs toujours une des courses les plus rapides de tous les temps. Donc, ce jour-là, évidemment qu'il peut avoir une pointe de frustration de ne pas être sur le podium, mais il a fait mieux en termes de performance que ce qu'il pouvait, sinon espérer, en tout cas envisager. Donc, qu'il y ait 3 autres athlètes qui soient meilleurs que lui ce jour-là, mais ça, c'est simplement la loi du sport. Donc, évidemment, peut-être que Maxime Grousset ne fera jamais mieux que cette quatrième place au jeu. Et peut-être que s'il fait quatrième un jour, il sera vraiment effondré de faire quatrième la prochaine fois. Et peut-être même que s'il fait deuxième à Paris, alors qu'il a la meilleure performance mondiale de l'année, en ayant mis une demi-seconde à tout le monde et qu'il est archi-favori, bah, il sera probablement beaucoup plus déçu de sa deuxième place à Paris que de sa quatrième aujourd'hui à Tokyo.
Et puis j'ajoute une chose, c'est qu'il échoue pas à 1/1000ème du podium non plus.
Avec il y a une marge, près de 3/10ème.
Voilà, il y a une marge assez significative par rapport à Kolesnikov et Chalmers qui étaient devant aussi. Encore plus. Et Dressel, j'en parle même pas. Mais donc là, oui, effectivement, il y avait quand même un gap, et lui-même l'a dit, il aurait fallu que je passe encore à la vitesse supérieure. Donc pour lui, non, c'est clair qu'il peut être satisfait de sa performance. Je pense aussi à la séiste que nous avons vue aussi un peu plus tard dans la journée, Marjorie Delassus, qui a pris une très belle, là aussi, j'ai envie de dire très belle, spontanément, 4e place dans l'épreuve du slalom. On ne l'attendait pas du tout à pareil fait. Elle était encore sur le podium avant le passage de la dernière et favorite australienne. Bon, c'est pareil, je ne pense pas qu'elle soit accablée par la tristesse dont on parle. Forcément, il y aura une petite pointe de déception, mais c'est encore une jeune qui performe, surperforme peut-être le jour J. Est-ce qu'elle sera encore là dans 3 ans? Est-ce que Maxime Grousset sera encore là dans 3 ans et pourra vraiment viser le podium? Impossible de le dire maintenant, mais voilà, je comprends qu'il ne soit pas abattu loin de là et qu'il ait des motifs de satisfaction dans un cas comme dans l'autre.
Et je pense que s'il termine sa carrière dans 2 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, je n'en sais rien, sans médaille olympique, le regret, il ne sera pas sur la finale du 100 mètres de Tokyo. Mm-hmm. Il sera ailleurs, peut-être dans des blessures, des choix de coach, j'en sais rien. Mais ce ne sera pas sur cette finale-là qu'il pourra regretter et se dire, voilà, c'est ce jour-là que j'ai raté l'occasion de monter sur le podium olympique. Non, sincèrement, je ne crois pas.
Merci, messieurs, je pense qu'on a fait le tour. On va passer à la troisième partie avec quelqu'un qui, lui, est monté sur le podium et a même éjecté un certain Roger Federer du podium olympique. Arnaud Di Pasquale, on va parler de tennis, évidemment. Bonjour Arnaud, merci de nous rejoindre. Ben, on avait 2 Français en route vers une éventuelle demi ce jour. Au final, malheureusement, ça ne passe pas. Hugo Humbert est tombé contre Karen Khachanov. Jérémy Chardy a plié contre Alexander Zverev. Malheureusement, on a quand même l'impression que ce sont des résultats logiques.
Oui, ce sont des résultats logiques. Après, on espérait quand même, je crois surtout, un Hugo Humbert réussir peut-être encore une fois à passer. Mais finalement, il a laissé beaucoup, beaucoup d'énergie hein, sur les tours précédents. Il perd de peu contre un Khachanov très bon, légèrement au-dessus, sur toute la partie hein, d'ailleurs, même si ça fait trois manches. Mais donc, ce n'est pas franchement une déception. La manière dont il a, je trouve, vécu ses jeux, Hugo Humbert, il a montré que malgré tout, même s'il n'y a pas une demi, une médaille à la clé, la magie des jeux, je trouve, a opéré, en tout cas sur Hugo Humbert. Il les a vécus pleinement. On a senti sa joie, son bonheur de participer aux Jeux Olympiques, d'être dans cette équipe de France. Et le problème, c'est tous ces matchs en fait, précédents, enfin, gagnés au couteau. Et donc, vraiment, physiquement, il a fléchi, enfin, je trouve, sur ce troisième set, et c'est dommage.
C'est ce qu'il a dit après son match. Il a dit très clairement, l'avenir va me réserver de très belles choses. Donc, comme tu le dis, il a vraiment bien vécu cette aventure olympique. Et justement, est-ce qu'on peut, comment on capitalise sur une aventure qui est un peu à part? Est-ce que ça joue pareil au niveau de la confiance qu'un tournoi classique, par exemple?
Oui, ça joue au niveau de la confiance, bien sûr, je crois. Après, c'est quand même très différent. Ça reste unique. C'est participer. L'équipe de France au sens large du terme, c'est pas simplement représenter le tennis, c'est tous les sports. Je sais pas, c'est difficile à décrire d'ailleurs, mais c'est vrai que tous les athlètes qui y ont participé, je crois, répètent un petit peu la même chose. Et c'est vrai qu'il y a une dimension assez extraordinaire au sens propre du terme, mais on a senti qu'il en avait pleinement profité et qu'il n'était pas loin, je trouve, Hugo. C'est pour ça que je dis la médaille à la limite. Évidemment qu'elle est importante parce que c'est ce qu'on va chercher quand on va au jeu, mais il n'est pas passé à côté. Il n'a pas été happé justement par le poids, par la pression, par cette première fois aux Jeux Olympiques. Il ne s'est pas laissé perturber, au contraire. Ça l'a même sublimé à certains moments. On ne peut pas dire qu'il ait joué son meilleur tennis, mais il a réussi quand même à passer ses tours jusqu'en quart. Et il n'est pas si loin contre un Khachanov qui lui aussi a été très bon, qui a été peut-être aussi touché physiquement, mais qui intrinsèquement a été peut-être tennistiquement un tout petit peu meilleur et dans le même état d'esprit tout simplement.
Laurent ?
Oui, c'est pas une déception pour Hugo Humbert, vraiment pas. En revanche, c'est un petit regret. Parce que autant Jérémy Chardy, il était face à une mission quasiment impossible, il avait Alexander Zverev, et même en cas de victoire derrière, il avait Novak Djokovic en demi. Donc la route de la médaille pour Jérémy Chardy, elle était très très complexe. Hugo Humbert, il avait potentiellement un très bon coup à jouer en demi contre Pablo Carreño Busta, qui a sorti Daniil Medvedev. Donc, il y avait peut-être quelque chose de très grand à faire. Maintenant, ce qu'il a fait, c'est très bien. Et moi, ce que j'ai bien aimé, Arnaud l'a dit, c'est qu'il avait dit avant les Jeux, il avait parlé de son envie d'être là. Il avait énormément d'enthousiasme dans ses propos. Et son enthousiasme, on l'a retrouvé dans son attitude sur le terrain pendant ses matchs. Et c'est vrai que je pense que ce n'est pas son meilleur tournoi de l'année. En revanche, dans l'état d'esprit, il a été irréprochable. Et même aujourd'hui, il s'est vraiment accroché. Il va repartir de Tokyo, je pense, avec une confiance sinon accrue, en tout cas confortée dans ce qu'il a fait déjà lors de la saison sur gazon, même s'il avait eu cette déception à Wimbledon. Mais encore une fois, il a battu un top 10, ça devient une très bonne habitude chez lui. Donc pour moi, le bilan d'Hugo Humbert, il est vraiment pas 100% positif, parce qu'il y avait une demi et peut-être potentiellement une finale olympique, et là je pense que ça aurait pu encore le faire changer de dimension. Mais malgré tout, vraiment, il faut plus le saluer qu'autre chose, et jusque dans sa défaite aujourd'hui, sur l'attitude en tout cas.
Raphaël, un petit mot sur l'autre Français du jour, Jérémy Chardy. Là, c'était plus sec, 6-4, 6-1 contre Alexander Zverev. La montagne était encore plus haute pour le coup.
C'est ça. Jérémy, bon, il ne faudra pas non plus oublier son parcours, que je suis trouvé assez emballant. Il a franchi les tours de manière courageuse à chaque fois, et bah, il méritait d'être en quart de finale. Et ça faisait plaisir de le revoir à ce niveau-là d'ailleurs. Mais oui, sur ce quart de finale contre Alexander Zverev, on a senti que même si sur le premier set, il y a ce break derrière, il s'accroche quand même. Le deuxième, physiquement, alors je ne sais pas ce qu'Arnaud en pense, il a suivi le match de très très près, mais il était vraiment juste physiquement. Maintenant, j'ai aussi envie de souligner l'esprit dont a fait preuve Jérémy Chardy. On sait que ça lui tient énormément à cœur de représenter l'équipe de France à chaque fois, que ce soit en Coupe Davis ou là, lors des Jeux Olympiques. Et je trouve que son attitude a été, encore une fois, très, très exemplaire et admirable.
Ouais, moi, pour rebondir, il y a une certaine fierté de voir le tennis représenté en fait, de cette manière. Voilà, je le dis parce que c'est nécessaire, mais c'est terrible de devoir peut-être le dire, mais c'est important. Et ça fait plaisir parce qu'on a connu des déconvenues. Voilà, j'étais à Rio où on a essuyé quelques lourdes défaites et un fiasco même très important. Là, aujourd'hui, l'image, elle est bonne, elle est belle. Enfin, de ces deux Français qui vivent les Jeux pleinement, qui vont au bout, qui, quand on parle de l'attitude, et pour le coup, alors il y en a qui sont plus ou moins démonstratifs, et là sur le terrain, Hugo Humbert, au changement de côté, je ne sais pas si vous regardiez, il était comme ça, tout le temps, au changement de côté, dans ses pauses, et puis quand il faisait un bon point, qu'il revenait de temps en temps dans des moments difficiles, il était le point levé vers le clan français tout le temps aussi, et ça, je trouve que c'est génial, et on ne le voit pas dans un tournoi classique, dans un grand chelem, le faire de cette manière, oui, on le voit serrer le point, oui, on le voit s'encourager, pas comme ça.
Il y a un petit esprit Coupe Davis, j'ai trouvé finalement, ça renoue un peu avec cette idée-là de représenter la France et d'avoir ce plaisir et cet honneur, tout simplement.
Ah, mais j'ai envie de penser que c'est encore différent, quand même. Évidemment que, oui, on représente son pays, c'est le drapeau, mais la dimension, elle est supérieure. On ne peut pas comparer parce qu'on représente uniquement le tennis et que là, on ne représente pas le tennis. On présente le sport français. Ce n'est pas le tennis qui est représenté au jeu uniquement. Ce n'est pas juste ça. Et c'est cette dimension-là qu'ils ont ressenti, qu'ils ont pleinement, intégré, je crois, et qu'ils ont communiqué. Enfin, je parle d'eux, mais il y en a eu d'autres. Après, forcément, il y a des premiers tours parfois, et donc c'est moins visible pour certains que pour d'autres. Évidemment que c'est quand on passe des tours qu'on s'intéresse un peu plus au parcours de nos Français, c'est logique. Mais voilà, c'est cette image mais qui dépasse un peu justement, et ce qui serait intéressant, c'est de leur poser à eux justement cette question sur la différence Fed Cup, Coupe Davis et Jeux Olympiques.
Un petit mot peut-être pour finir sur les demi-finales. Djokovic en épouvantail, on est d'accord. Djokovic, Zverev, Khachanov, Carreño Busta sur les deux demi.
Je laisse Laurent. Hein,
sur ce qu'on a vu ces derniers jours, ces dernières semaines, ces derniers mois, voire ces dernières années.
Ces 10 dernières années.
Ouais, non, on en parlait tout à l'heure avec Arnaud. Il a une marge incroyable. Aujourd'hui, il a découpé Nishikori qui a fait ce qu'il a pu et c'était loin d'être suffisant, même si parfois il arrivait à jouer avec beaucoup de vitesse, mais il a réponse absolument à tout. On s'était posé, il y avait deux interrogations autour de Djokovic pour moi avant ce tournoi. Le premier, c'était un potentiel petit letdown, relâchement après l'enchaînement Roland-Garros, Wimbledon. Ça, on a compris, niet. Et l'autre interrogation, c'était le format de 7 gagnants qui nivelle un tout petit peu les valeurs, qui peut mettre un tout petit peu plus en danger un joueur comme ça. Il n'a pas eu le type d'adversaire encore qui pouvait le mettre en danger dans cette configuration-là. Peut-être Alexander Zverev en demi-finale. Mais aujourd'hui, c'était très difficile de miser contre Djokovic avant le début du tournoi. Maintenant, c'est presque impossible, quoi. C'est vraiment compliqué.
Totalement d'accord, totalement aligné. Ouais. Il était grand favori, il est encore plus les tours passent et plus il est impressionnant. Ouais.
Bah, merci Arnaud d'être passé dans l'heure olympique une nouvelle fois. On va basculer maintenant sur la journée de demain et évidemment l'immense rendez-vous de l'équipe de France, de la France même au global, Teddy Riner, pour peut-être un troisième titre de champion olympique. On continue avec notre séquence l'affiche du jour et on accueille Frédéric Jocinet. Vous imaginez bien qu'on va parler de judo. C'était pas trop difficile à trouver l'affiche du jour pour ce vendredi. Vendredi, c'est le jour du Seigneur. Teddy Riner entre en lice au Nippon Budokan. Le double champion olympique vise la passe de 3. On va pas refaire son palmarès ici. Il faudrait toute une émission. On va juste parler de vendredi, de ce qu'il attend. Frédéric, on a coutume de dire que Teddy Riner n'a d'adversaire que lui-même. Cette fois, on a l'impression qu'il y a un petit quelque chose en plus, ce serait peut-être son genou gauche.
Oui, pour moi, ça veut dire un peu la même chose aussi, hein, parce que quand on dit qu'il a que lui, entre guillemets, comme adversaire, c'est aussi son état de forme, son physique. Teddy, il a eu ces dernières années des petits pépins qu'il a très très bien soignés, et puis il est très bien accompagné avec un staff médical très présent et très performant à côté de lui. Alors c'est vrai que on le rappelle aussi, hein, Teddy, il n'est pas tête de série sur ces Jeux Olympiques, il a un tirage pas évident. Après, je peux vous dire qu'il est il est affûté, Teddy. Et justement, peut-être que cette petite blessure, ça l'a reconcentré, recentré aussi, notamment avec tout un accompagnement pour revenir, pour bien se soigner et être prêt dans sa préparation pour aller jouer le titre olympique ce vendredi.
Et pourquoi avoir gardé le secret ? On sait qu'on a appris la blessure très tard, avant les JO. J'ai envie de dire, pourquoi avoir gardé le secret ? Ou pourquoi l'avoir dit, finalement, à l'inverse ?
Je pense qu'il faudra lui demander au moment voulu. Mais moi, je pense que Teddy, il a voulu, et l'environnement, il a voulu garder le secret aussi pour ne pas donner d'indications à ses adversaires. Bon, je pense qu'il avait besoin de se rassurer. On le connaît, Teddy, aujourd'hui, hein, ce qui est assez d'ailleurs paradoxal. On a l'impression, quand on le voit, que Teddy, c'est une machine, qu'il a énormément confiance en lui. Ce n'est pas toujours le cas. Il a besoin de se remettre toujours, mais c'est une vraie force aussi, hein, de se remettre toujours en question, de se poser justement les bonnes questions, de bien s'entourer, de bien se préparer pour reprendre confiance et d'avoir justement confiance à 100%. Et je pense que le fait de le dire, ça l'aura peut-être atteint psychologiquement. Et donc, voilà, il s'est dit focus sur la réhabilitation et focus sur la fin de préparation.
Laurent, Teddy Riner a très 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 longtemps été un invincible et puis on l'a vu perdre. Est-ce que pour toi, c'est une chape de plomb qui est peut-être descendue de ses épaules, ou est-ce que tu vois ça plutôt comme un désavantage, que ça dit quelque chose de lui, de sa lignée, on va dire ?
Ouais. Pour les adversaires, peut-être que ça a été une sorte de révélateur et la fin d'un mythe que Teddy avait imposé pendant une décennie. Et vu du point de vue adverse, peut-être que ça peut être une bonne chose pour tous ses adversaires. Mais inversement, peut-être que lui, il avait aussi besoin de ça à un moment donné pour repartir, pas de zéro, mais pour retrouver, je ne sais pas, une motivation, mais en tout cas... Peut-être que lui, ça lui a fait du bien aussi d'avoir été battu, je ne sais pas. C'est difficile à dire, je ne suis pas dans sa tête, mais moi, c'est comme ça que je le vois. Et donc, je pense que ça peut être à double tranchant. Moi, je ne sais pas si Fred a une réponse là-dessus, mais qu'est-ce qui est le plus embêtant dans le fait qu'il ait eu une préparation difficile ? Est-ce que c'est le manque de compétition qu'il a globalement depuis plusieurs mois ? Ou est-ce que c'est une forme de fragilité physique sur la durée du tournoi, ou est-ce qu'il n'y a pas d'inquiétude à avoir à ce niveau-là ?
Moi, je dirais ni l'un ni l'autre. Je vais être très, très franche et très honnête, transparente avec vous. Moi, je pense que peut-être la seule fragilité qu'on peut aujourd'hui considérer, c'est le report des Jeux d'un an, hein, parce que ce troisième titre, il le veut depuis... il aurait voulu l'avoir autour du cou depuis 2020. Il a fallu attendre encore un an. Je pense que ça lui a mis un petit coup derrière la tête. Maintenant, Teddy, il a cette capacité justement à se remettre aussi très très vite dans le bon sens, à tout de suite voir l'opportunité aussi. Aujourd'hui, Teddy, il a besoin aussi de se re-challenger et peut-être qu'inconsciemment, en effet. De perdre, ça l'a remis en quelque sorte dans des défis. Teddy, il a besoin de défis. Il faut être clair, Teddy, il a besoin de défis, de nouveaux challenges. Il a des fois du mal à en trouver avec ses adversaires. C'est pour ça qu'on le voit dans d'autres disciplines, hein, sur un vélo, en train de monter d'école, jouer au basket, au foot, etc. Et tout, parce qu'il a besoin de challenges. Là, il a perdu. Ça l'a remis en quelque sorte en selle et il se dit, eh ben, moi j'ai un nouveau défi, c'est justement, je veux perdre zéro combat au jeu et du coup avoir ce titre et ce troisième titre olympique.
Frédéric, tu parlais tout à l'heure de son tableau. Raphaël, Teddy Riner n'est pas tête de série. Explique-nous un peu ce que ça change pour les béotiens du judo, justement les pièges qu'il y aura sur son parcours.
Alors en fait, le judo, ça fonctionne... au niveau des tableaux, un peu comme au tennis, hein, tout simplement, il y a 8 têtes de série et les 8 meilleurs du classement mondial, de la ranking, comme on l'appelle. Or, Teddy Riner a fini la saison, il a fait très peu de compétitions, il a fini hors de ses 8 premières places. Et donc, cela veut dire qu'il ne sera pas, déjà première conséquence, il ne sera pas exempté du premier tour. Il aura un premier tour assez piégeux d'ailleurs contre un adversaire qui lui a donné pas mal de fil à retordre à Paris en février 2020, donc un Autrichien. Donc, il n'aura pas un tour blanc, on appelle ça comme ça aussi. Il va devoir rentrer dedans tout de suite et c'est la première conséquence. La deuxième, c'est qu'il se retrouve dans un quart de tableau pas évident du tout, avec Or Sasson, donc un autre adversaire israélien assez costaud, assez difficile à bouger au deuxième tour et potentiellement, on dit bien potentiellement, le numéro 1 mondial en quart de finale. Donc, qui est Tamerlan Bashayev, qui l'a battu à Doha, mais qui a quand même une valeur très sûre du circuit qu'on a pu voir sur ses dernières compétitions, qui vraiment sera un client pour lui. Et c'est vraiment un combat qui en dira beaucoup sur les capacités de Teddy Riner au cours de cette journée.
Frédéric, il faut rappeler quand même, remettre dans le contexte, que c'est de gagner 3 titres de suite en judo. Il y a Nomura qui l'a fait. Ce ne serait pas unique, mais ce serait une première depuis ça. Donc, dire combien c'est exceptionnel de tenir la distance sur autant de temps, avec une année en plus, justement, avec ce report.
Oui, 3 titres olympiques, c'est exceptionnel. Et j'allais vous dire, c'est pas qu'en judo, en fait, où c'est exceptionnel. 3 titres de champion olympique, c'est incroyable. Déjà, en avoir un, d'en avoir deux, c'est incroyable. Mais 3 titres, en effet, au judo. Il n'y a que Nomura, on l'a dit, hein, il n'y a que Nomura, le japonais. Alors, en plus, chez les moins de 60 kilos qui l'a fait, qui a réussi à le faire. Voilà, donc c'est un vrai défi. On en a parlé tout à l'heure. Teddy, il a besoin de défis, de challenge. Lui, il veut vraiment écrire son nom dans évidemment le judo mondial, mais aussi dans le sport français. Il l'a déjà fait avec les 10 titres de champion du monde. Mais entre guillemets, il n'est que double champion olympique. Et aujourd'hui, il y a un autre judoka qui a 3 titres. Donc lui, il veut définitivement inscrire son palmarès et des records, comme il le dit à chaque fois.
Puis le faire juste au Japon, au Budokan, dans le pays, oui. Au pays du judo, ce serait la cerise sur le gâteau, disons.
Alors, je suis d'accord avec vous, même si aujourd'hui, moi, je mets un petit bémol, hein, parce qu'on le voit que alors, le Budokan, c'est le temple du judo avec une résonance qui est faite hein, vraiment pour le judo. On arrive même à entendre le déplacement des judokas sur le tatami, donc c'est exceptionnel. Malgré tout, aujourd'hui, il n'y a pas de spectateurs hein, quand même dans ce Budokan où c'est vrai, on s'attendait à une ferveur populaire autour de ce Budokan et dans le Budokan. Aujourd'hui, c'est quand même un peu moindre. Donc, bien sûr que c'est au pays du judo, mais dans des conditions quand même qui sont très, très spécifiques.
Raphaël, tu voulais ajouter quelque chose ?
Oui, je voulais ajouter quelque chose. Alors, je vais revenir un peu sur cette notion de défaite qu'on abordait tout à l'heure et du record. Donc, on parle du record de Tadahiro Nomura, effectivement, les 3 titres olympiques. Ça, Teddy Riner, je me souviens très bien, j'étais à Paris le jour où il a perdu. On s'attendait en zone mixte de voir un combattant un peu abattu, mais pas du tout. Il a très vite relevé la tête, s'est dit « moi, ça m'enlève une pression ». Le record qui m'intéresse, c'est celui de Nomura, c'est les 3 titres olympiques. Le record de victoires consécutives, c'était Yasuhiro Yamashita, donc 203 victoires consécutives. C'était une pression énorme pour lui. De toute manière, il aurait eu, je pense, pas mal de difficultés à l'atteindre. Enfin, il était encore relativement lointain. Donc, ça lui a enlevé un poids, effectivement, cette défaite. Et ça lui permet de regarder vers la seule chose qui l'intéresse, c'est cette 3e médaille d'or olympique. Et je me permets de rajouter une petite chose. Donc, on parle beaucoup de Teddy. Il ne faudra pas oublier aussi que vendredi, on aura une autre Française engagée en plus de 78 kilos. Qui a aussi une vraie belle chance de médaille et peut-être du plus beau métal, c'est Romain Dico, qui est une sacrée pépite. Je pense que Frédéric est d'accord avec moi.
Il est formidable, il fait les transitions. Donc, Frédéric, allons-y.
Ouais, moi, je suis d'accord. Merci pour cette passe, Raphaël. C'est vrai que moi, j'ai une vraie. C'est pas une affection, mais il y a vraiment un truc chez Romane. Elle est exceptionnelle. C'est une athlète qui est très complète. Elle est déterminée. Elle est affûtée. Elle est précise. Elle est juste. Elle est pétillante parce qu'elle l'est dans la vie aussi. Hein, et souvent, on fait du judo comme on l'est dans la vie. Et en même temps, donc c'est un vrai rayon de soleil. Mais je peux vous dire que c'est une formidable athlète. Quand elle envoie du judo, elle est tactique, elle est technique, elle a vraiment aujourd'hui tout pour gagner. Alors évidemment hein, déjà si elle va chercher une belle médaille ça sera fantastique. Après franchement elle peut nous en tout cas et moi la première, moi je peux me permettre de rêver encore une fois hein, à un doublé olympique le dernier jour de compète comme ça avait été le cas il y a 5 ans avec Emilien Andéol et Teddy, pourquoi pas garder les 2 titres chez les lourds à la maison. Et ça serait aussi très, 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 très bon et très, très bien parce que le lendemain, il y a les équipes mixtes avec ces 2 catégories. Et psychologiquement, sur un France-Japon en finale, là aussi, on pourra aller chercher une médaille d'or.
Là, ce n'est plus la cerise sur le gâteau, c'est des gâteaux énormes. Donc, Frédéric, on se retrouve vendredi, même lieu, avec 2 médailles d'or de plus. On ne va pas perdre notre habitude.
Exactement. Voilà.
Bon, je pense qu'on a fait le tour. Merci de nous avoir suivis pour cette nouvelle émission de l'heure olympique. Vous avez rendez-vous, vous le savez, tous les jours à peu près à la même heure, fin d'après-midi sur Eurosport.fr, sur toutes les bonnes plateformes de podcast et même les moins bonnes. Vous nous trouvez partout. Donc n'hésitez pas, notez-nous, donnez-nous 5 étoiles. Ça fait remonter dans les classements. Et on vous souhaite de très bons jeux, de suivre les jeux encore évidemment sur Eurosport. Salut à tous.
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower-than-low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.